sommes encore heureux d'être dans la présence du Seigneur. Il y a d'abondantes joies devant sa face et des délices éternels à sa droite. Quelqu'un qui a goûté à la présence de Dieu ne peut plus s'en passer. Amen. Ne peut plus, ce n'est pas possible. Tout le reste pâlit. Tout pâlit et se flétrit devant la présence de Dieu. Sa présence est une source de joie, de renouvellement, d'épanouissement, de connaissance, de vérité, de sainteté. Alléluia. Et par sa parole, il répond aussi à nos besoins. Le Saint-Esprit a été donné. Jésus a dit, quand il sera venu, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité de la parole. Le Saint-Esprit ne nous conduit jamais en dehors de l'enseignement de la parole de Dieu, jamais. La révélation que Dieu nous a donnée est complète. Elle est dans sa parole. Dieu n'a plus rien à ajouter, plus rien à retrancher. Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par son Fils. La révélation est désormais complète. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit, celui qui ajoutera quelque chose, les fléaux de Dieu sont ajoutés sur lui. Et celui qui retranchera quelque chose, il sera retranché de l'arbre de vie. On ne peut pas jouer à ces choses-là. Nous vivons un siècle dangereux, plein de confusion, plein de mysticisme et de religion, où de multitudes d'hommes et de femmes viennent avec des révélations nouvelles pour nous dire « le Seigneur m'a dit cela ». Si cette révélation ne cadre pas et ne confirme pas la parole de Dieu, il nous faut la rejeter. Sinon, c'est votre perdition éternelle. C'est très grave. D'où l'importance de nous attacher à cette parole et de bien la connaître. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a des tentations. Le thème de notre convention était donc « Comment reconnaître une véritable onction du Saint-Esprit ?» Nous avons vu dans le premier message que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Et nous avons parlé de la colombe, des sept qualités de la colombe, indispensables à savoir. Voyez-vous, Dieu a fait les choses simples. Une colombe, si on étudie un petit peu, Dieu nous parle par la nature. Amen. Dieu nous parle aussi par la nature. Et si nous savons simplement discerner les qualités d'une colombe, nous discernerons aussi les qualités du Saint-Esprit. Et hier, nous avons vu que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'emblème, que la colombe n'est pas seulement l'emblème du Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit est comme un sceau. Paul disait, vous avez été scellés du Saint-Esprit, vous qui avez cru pour votre salut, n'est-ce pas vrai? Scellés. Nous avons vu que le Saint-Esprit est comme un sceau. Et si nous voulons le sceau du Saint-Esprit dans nos vies, qui ne veut pas l'avoir. Je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ne veut pas l'avoir. Mais il y a des conditions à accomplir pour l'avoir. Beaucoup sont enthousiastes. Oui, 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 oui. Mais quand les conditions sont données, je réfléchirai une autre fois. Excuse-moi, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Il faut que j'aille trouver un ami, je n'ai pas le temps. Non, mes amis, si nous voulons vraiment discerner la véritable onction du Saint-Esprit, il nous faut avoir le sceau du Saint-Esprit. Et nous avons vu les cinq messages que nous trouvons dans un sceau. Le sceau était donc un moyen de transaction au début du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il y avait donc cinq messages précis qui nous révèle la signification du sceau. Et ce matin, Nous allons voir une troisième partie, et le dernier message, concernant justement cette onction du Saint-Esprit, comment la reconnaître. Ce matin, nous allons voir les tentations du chrétien sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'encore, ce n'est pas le tout d'avoir l'onction. À partir du moment où quelqu'un a l'onction, il y a des tentations. Et c'est parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas su, n'ont pas connu ce que sont ces tentations et n'ont pas franchi victorieusement ces étapes, qui n'ont pas pu, malgré l'onction qui était sur eux, qui n'ont pas pu ou ne peuvent pas être utilisés par Dieu. Parce que dans ces tentations-là, ce sont comme des tests que Dieu nous fait passer pour voir s'il peut nous confier une plus riche onction du Saint-Esprit pour servir. C'est un test. Et nous allons utiliser comme texte de base la tentation de notre Seigneur. Conduit par l'Esprit, il a été tenté par le diable. Et vous savez qu'il y a eu trois tentations que le diable lui a offertes, n'est-ce pas vrai? Et dans ces trois tentations-là, il a trois messages pour nous. Jésus a subi victorieusement ces tentations pour que nous, nous puissions aussi les franchir victorieusement. Amen. Mais c'est très important, parce que dès que quelqu'un a l'onction, il y a des dangers. Il y a des bénédictions, c'est vrai. Il y a des joies, mais il y a des dangers. Il y a des dangers. Le diable ne viendra pas troubler quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Mais il vient plutôt troubler, tenter, séduire quelqu'un qui a l'onction sur lui afin de le faire agir d'une manière qui déshonore Dieu. Il est donc très important de connaître quelles sont ces tentations du chrétien sous l'onction. Jésus a franchi cette étape dans le désert. Et laissez-moi dire une chose, mes amis, après une telle bénédiction, comme nous avons vécu sous l'onction, ne pensez pas que l'ennemi ne viendra pas vous tenter. Ne pensez pas, c'est le Saint-Esprit, il est bien dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, le Seigneur. Amen. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit, c'est l'Esprit qui l'a conduit. Il l'a conduit pour être tenté, mais dans le but d'en être victorieux, pour qu'une fois que nous soyons victorieux de ces tentations, Dieu puisse nous utiliser et que cette onction ne nous détruise pas. Ne nous détruise pas, ne fasse pas de nous des hommes et des femmes complètement à côté de la course ou qui planent totalement, mais pleinement conscients de leurs responsabilités. Et toutes les graves déviations que nous voyons dans des personnes ou des ministères qui sont soi-disant remplis du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas passé par ces trois tests-là. Et chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, s'il veut être utilisé, doit passer ces trois tests, ces trois tentations. S'il veut que l'Esprit reste sur lui, qu'il y ait une plus grande mesure encore du Saint-Esprit sur sa vie. Amen. Alors nous allons lire pour cela dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. D'ailleurs, l'évangile de Luc nous parle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus d'une manière très instructive. Vous savez, il est parlé du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, dans l'évangile de Luc, dans quatre passages. Et ces quatre passages nous montrent un peu comment le chrétien lui-même aussi doit être conduit par l'Esprit. Dans Luc 1, 35, il est dit que que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc dans la vie de Jésus, il y a eu un premier point, il est né du Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Comme nous, nous devons naître du Saint-Esprit pour être convertis. Amen. Alors il y a une deuxième étape dans la vie de Jésus, c'est dans Luc 3, 21-22. On l'a lu l'autre jour, il est dit que Jésus, le Saint-Esprit, au verset 22, descendit sur lui comme une colombe. Alors il est né du Saint-Esprit et maintenant il est loin du Saint-Esprit. Et cela représente le baptême dans le Saint-Esprit pour le chrétien. Ça représente le baptême du Saint-Esprit pour le chrétien. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus fut, il y a une troisième étape, il fut conduit par l'Esprit. Alors c'est au chapitre 4, versets 1 et 2, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, voyez-vous, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Voilà la troisième étape. Il fut conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Et cela aussi, le chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, cela aussi est sa part. Et c'est là que se trouve le combat. Jésus a franchi victorieusement cette étape, donc nous pouvons le faire aussi. Amen. Nous allons voir comment il a résisté, comment il a su déjouer les plans de l'ennemi. Il a été tenté pour que nous, nous sachions comment le diable nous tente. C'est ça qui est merveilleux. Pourquoi Jésus a été tenté? Eh bien justement, il a été tenté pour que nous, nous sachions comment il a été tenté par le diable et comment il en est sorti victorieux. Sinon, personne ne peut savoir comment on est tenté par le diable, n'est-ce pas vrai? N'importe qui peut vous dire n'importe quoi, vous êtes d'accord avec moi? N'importe qui. Mais dans la vie de Jésus, il y a cette tentation que Dieu a permis pour que nous, nous sachions comment le diable vient. Et après, on va le voir, c'est dans ces trois tentations comment le diable vient et parle. Mais Jésus a su être victorieux, nous pouvons l'être aussi. Amen. Et comme Jésus a triomphé, ensuite au verset 14, il y a la quatrième étape qui est là, 4-14. Maintenant, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Alors voilà maintenant. Voyez-vous, il a franchi l'étape de la tentation. Il a su comment faire. Maintenant, il est revêtu de la puissance et il peut accomplir son ministère. Il enseigne, il est glorifié. Maintenant, il peut accomplir l'œuvre que le Père lui a confiée. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Après ces tentations, Dieu veut nous former, nous éprouver pour voir s'il peut nous confier cette onction. Et si nous passons victorieusement cette épreuve, il pourra nous confier une tâche. À chacun d'entre nous. Amen. Car le but de l'onction du Saint-Esprit, c'est d'abord, bien sûr, de glorifier Dieu. Alléluia. Mais ensuite, c'est de servir le Seigneur. De le servir. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Alors, il y a donc ces quatre étapes dans la vie de Jésus qui se retrouvent aussi dans la vie du chrétien. Né de l'Esprit, nous devons être nés de nouveau pour être un authentique chrétien. Jésus a dit à Nicodème, un chef religieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il était religieux, mais perdu. Donc ça, il faut qu'on se soit clair. Il y a encore des millions de gens qui ne savent pas cela. Quand vous leur dites, oui, mais tu as besoin d'être sauvé. Oui, mais comment, moi j'ai ma religion, je prie, je vais à l'église, je donne, je fais du bien, je me sacrifie et tout, ça ne suffit pas. Depuis 2000 ans encore, après 2000 ans de christianisme, on en est encore à ce niveau-là. Les gens pensent que parce qu'ils sont religieux, ils sont sauvés. La religion ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Et il faut être né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit. Une vie transformée, où l'on abandonne le passé pour vivre une vie entièrement nouvelle, pour le Seigneur et en obéissance à sa parole. Amen. Né de l'Esprit. Ensuite, il nous remplit du Saint-Esprit. Nous parlons d'autres langues. Nous glorifions le Seigneur comme à la Pentecôte. Et après, il glorifiait le Seigneur en d'autres langues. Lorsque le Saint-Esprit vint sur eux, ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et cette louange est là pour d'abord glorifier Dieu. La foule qui était là disait, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, quand le Saint-Esprit vient, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est de glorifier le Seigneur. Alléluia. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la colombe qui est envoyée pour communiquer un message. Quand il sera venu, Jésus a dit, il me glorifiera. Alléluia. C'est cela, le Saint-Esprit a été donné pour glorifier le Seigneur et personne d'autre, ni une église, ni une dénomination, ni un homme, ni une femme, ni Marie, ni les saints, ni qui que ce soit. Il faut que ce soit bien clair tout cela, sinon nous attristons le Saint-Esprit et tôt ou tard, nous résisterons au Saint-Esprit, nous l'attristerons. Et Dieu devra se retirer. Le Saint-Esprit a été répandu pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est mort sur la croix. Son sacrifice a été parfait. Il a souffert. Lui le juste pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. L'œuvre est accomplie. Les hommes désormais ont un sauveur qui a porté leur châtiment, qui a subi leur condamnation. Ce n'était pas pour ses péchés que Jésus est mort. Il était le juste, le saint, le pur, le Fils de Dieu. C'était pour tes péchés. C'était ta condamnation qu'il portait. C'était ton jugement. Et lorsqu'il est mort sur la croix, tu dois savoir que c'est à ta place. Christ est mort pour nos péchés. Et ensuite, il est ressuscité. Et le Saint-Esprit voulait dire, maintenant, c'est le seul sauveur. Pierre, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a dit, sachez qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus, rempli du Saint-Esprit. Il savait que Jésus seul devait être glorifié. Et si le Saint-Esprit est répandu, c'est parce que Jésus et son sacrifice seul ont été acceptés par Dieu le Père. Amen. Rien de nous-mêmes ne peut être accepté par Dieu, mais seulement ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Amen. Ainsi, le Saint-Esprit est là pour glorifier le Seigneur. Maintenant, voyons comment Jésus fut tenté par le diable. Il y a donc trois tentations. La première tentation, nous lisons, la première tentation, nous la trouvons au verset 3. Il est dit, dans le désert, il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ne vivra pas de pain seulement. Mais ailleurs, il est dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Alors ici, voilà la première tentation. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Quelle est la tentation ici? La tentation que le diable voulait communiquer au Seigneur, c'était « Maintenant que tu as reçu la puissance, maintenant que tu as reçu l'onction, utilise cette puissance pour toi-même, pour des fins égoïstes. » C'était là la tentation du diable, que Jésus utilise cette puissance pour des raisons égoïstes. Tu as la puissance maintenant? Allez, maintenant, fais un miracle. Ordonne à cette pierre qu'elle ne vienne pas. Pense à toi. Pense à toi. Fais-toi un nom. Tu peux maintenant devenir quelqu'un avec la puissance que tu as reçue, avec l'onction que tu as reçue. Maintenant, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Fais-toi un nom. Tu peux devenir quelqu'un. C'était là la tentation, et c'est la tentation que nous aurons tous et que beaucoup ont, c'est que quand ils ont l'onction, d'une manière cachée, ils essayent d'utiliser cela pour se montrer, se faire valoir. C'est là une grande tentation subtile auxquelles nous devons faire très attention. Quand certains ont des dons ou un ministère ou autre, vous le voyez, ils manifestent des choses, mais dans le but avant tout de se montrer eux-mêmes. Vous voyez la séduction? Vous voyez la tentation? Alors que l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un désire des dons spirituels, qu'il les désire ardemment, pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. La puissance que tu reçois, que je reçois, n'est pas pour me montrer, n'est pas pour des désirs égoïstes, personnels, me montrer, faire valoir un peu qui je suis. La puissance que tu as reçue est d'abord pour bénir les autres. Amen. Servir les autres. C'est pourquoi, entre les 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14, où il y a les dons spirituels, il y a entre 1 Corinthiens 12 et 14, il y a 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est s'oublier soi-même pour penser aux autres. Et c'est là que le diable voudrait nous court-circuiter. Ne pense pas aux autres, pense à toi. Avec cette puissance que tu as maintenant, tu peux devenir quelqu'un. Montre un petit peu qui tu es, toujours très subtilement, que tu es différent des autres, que tu es supérieur aux autres, et que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et par nos attitudes, par nos paroles, par certains gestes, nous pouvons ainsi utiliser cette puissance à des fins égoïstes. Mais l'apôtre Paul dit bien, si j'ai tous les dons, si je prophétise, si j'ai la langue des anges et tout cela, si je donne mon corps à être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le but de l'onction n'est pas de nous vanter ou de croire que nous sommes devenus quelqu'un. Le but de cette onction est pour servir. C'est pourquoi il y a tout ce chapitre 13 de l'amour où l'homme s'oublie soi-même et quand on est véritablement rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous met de côté, nous, et met Jésus au centre de notre vie. Et les autres après, et moi en dernier. Amen. C'est comme ça, l'ordre divin. Quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit, il y a un ordre divin. Jésus est le premier. Alléluia. Ensuite, c'est mon prochain qui vient avant. Après Jésus. Et moi, je suis à la fin. Tandis qu'aujourd'hui, combien de gens se mettent d'abord en premier et ils pensent que quand Dieu les bénit, c'est d'abord pour faire valoir leurs intérêts personnels, qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Vous n'avez pas entendu cela? Ça, ce sont des fausses doctrines qui courent. Il y a des livres là-dessus. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer les autres. Voilà une mauvaise utilisation de l'onction de Dieu. Jésus a dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Voyez-vous, premièrement Dieu. Ensuite, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le prochain qui vient avant nous. Et nous, nous sommes en dernier. Les tentations du chrétien sous l'onction. Le Saint-Esprit vient mettre Jésus au centre de notre vie. Et ensuite, c'est les autres. Nous, nous devons nous oublier. Et c'est là que beaucoup échouent. Le Saint-Esprit, c'est un peu comme un jouet. C'est une occasion pour eux de se montrer, de se faire valoir. Mais on ne joue pas à cela. Et si nous n'avons pas appris cette leçon-là, nous allons tomber dans des pièges catastrophiques où nous attristerons le Saint-Esprit et où Dieu ne pourra plus jamais nous utiliser. Alors, première tentation, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pense à toi, pense à toi. Tu peux utiliser tout ça pour te faire un nom, montrer qui tu es. Non. Seigneur, tu m'as oint du Saint-Esprit. Et cette onction n'est pas pour moi-même. Elle est pour te glorifier et pour servir les autres. Amen. Est-ce que nous avons bien compris cela? Ça, c'est une vérité capitale. Sinon, l'orgueil va venir en nous. Et cet orgueil a détruit des quantités de chrétiens et de serviteurs de Dieu. Vous savez ce que le mot orgueilleux veut dire dans le texte grec? C'est très important de le savoir. Le mot orgueilleux veut dire se croire supérieur aux autres, se placer au-dessus des autres. Mais c'est une attitude du cœur. Vous voyez, où la personne extérieurement peut paraître très humble. C'est pourquoi des faux prophètes et tout cela. Quand vous les voyez, attention, et beaucoup de gens sont trompés par cela, par des faux prophètes, faux docteurs et tout. Ce sont des gens apparemment très humbles. Oh là là, des véritables agneaux. Allez, regardez. Très doux, Jésus. Ils savent faire pour ça. Ils savent faire. Et puis les gens, quand ils voient ça, « Mes frères, qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible. Regardez comme il est humble. Regardez comme il est humble. C'est pas possible que ce soit un faux prophète ou qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Détrompe-toi. » Un orgueilleux peut être humble extérieurement, mais le véritable orgueil est dans le cœur. Mais cet homme qui est apparemment humble, voilà comment il raisonne. Dans le fond de son cœur, il y a toujours cette pensée qu'il est supérieur aux autres et qu'il n'a rien à apprendre des autres. C'est toujours les autres qui doivent apprendre de lui, mais lui est toujours supérieur. Oui? Alors il regarde toujours les autres de haut, toujours. Ah oui, c'est bien, oh, vous êtes bénis. Ils sont toujours comme ça d'abord. D'abord, ils vous approuvent, formidable, c'est bien, tout ça, tout ça. Mais dans le fond de son cœur, ouf. C'est rien du tout. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Moi, je suis au-dessus de tout ça. C'est bien. Mais moi, je suis au-dessus. Ils ont toujours une tête de plus que les autres. C'est un peu comme des Saül. Il avait une tête de plus que les autres. Et ça a été sa perte, d'ailleurs. Les tentations. Quand le Saint-Esprit vient, mes amis, on ne devient pas supérieur aux autres, on devient serviteur des autres. Amen. Ça, c'est une tentation. Le diable viendra. Maintenant, tu as reçu, hein? Tu as été béni, tu as des dons et tout. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un. Oui, quelqu'un. L'autre, tu vois, à côté, là, il n'a rien du tout. Zéro, zéro, zéro. Alors, toi, tu es quelqu'un, toi. Et puis, tu vas commencer à regarder l'autre un peu de haut. Qui tu es, toi? Moi, j'ai fait des expériences. Moi, je suis quelqu'un. Toi, qui tu es, toi? Et puis l'autre, quoi? Moi, je sais quelque chose. Toi, tu dis rien du tout. Tu dis rien. Un pauvre type, un pauvre type. C'est une tentation. Il faut franchir, il faut passer victorieusement cette épreuve. Amen. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Voyez, c'est pour soi-même. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te glorifier, pour te montrer, te vanter et te croire supérieur, mais te faire de toi un serviteur. Et pour t'oublier toi-même, pour glorifier Dieu et servir les autres. Et cette onction qui sera là grandira. Tu auras une onction plus riche encore. Pourquoi certains chrétiens qui apparemment sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais sont toujours les mêmes, il n'y a rien du tout. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Parce que de ce côté-là, ils ne cultivent pas cet esprit d'humilité pour que Dieu puisse les bénir encore plus et leur donner une plus grande onction et de plus grandes responsabilités. Ordonne à ces pierres. C'est quelque chose qui vient gonfler notre orgueil. Veillons à cela. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Veillons donc. Voyons maintenant la deuxième tentation. Deuxième tentation, versets 6 à 8. Le diable l'ayant élevé, lui montra, verset 4, 5, 6, lui montra un instant les royaumes de la terre et lui dit, regardez la tentation là, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors vous voyez ici la tentation, je te donnerai, il lui a montré en un instant tous les royaumes. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elles m'ont été données. Je la donne à qui je veux. Alors la tentation ici est celle-ci. La tentation est d'avoir la puissance sans la croix. La deuxième tentation est celle-ci. La tentation d'avoir la puissance de Dieu sans la croix. Jésus, comment a-t-il reconquis tout cela ? Par la croix. C'était par la croix qu'il est venu reconquérir tout ce que Adam avait perdu, n'est-ce pas vrai? C'est la croix. C'est par la croix qu'il a triomphé et qu'il a maintenant, qu'il règne sur l'univers tout entier. C'est par la croix seulement. Et le diable vient le tenter, comme pour dire, t'as pas besoin d'aller à la croix. Moi, je te donne tout ça maintenant. Je te donne toute cette puissance sans la croix. Tu auras tout ça, c'est merveilleux. Mais Jésus dit, arrière de moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la tentation maintenant. La tentation de servir le Seigneur sans accepter, de servir le Seigneur avec la puissance du Saint-Esprit, sans l'esprit de la croix, sans la croix. Et c'est là, et la croix c'est quoi? C'est cet esprit de sacrifice et de renoncement. Car il n'y a pas d'onction pour qui que ce soit sans un esprit de sacrifice et de renoncement. Le sacrifice est la respiration de l'amour. J'ai lu un jour cette pensée, ça m'est toujours resté. Le véritable amour est un amour qui se sacrifie. Amen. Et Jésus ne pouvait pas accepter cette tentation. Il a vu la ruse, avoir la puissance, mais sans la croix, sans les souffrances, sans le renoncement, sans les sacrifices. Et aujourd'hui encore, maintenant, combien de fois c'est comme cela? On recherche bien, on veut bien la puissance de Dieu, mais l'esprit de la croix, nous n'en voulons pas. Un jour, j'avais lu cette pensée. Pour connaître la réputation d'une église, il faut aller au culte le dimanche matin pour voir la réputation de l'église. Pour connaître la réputation du pasteur ou de l'évangéliste, il faut aller à la réunion de l'évangélisation l'après-midi. Mais pour connaître la réputation du Seigneur, il faut aller à la réunion de prière. C'est à la réunion de prière que l'on voit la réputation du Seigneur dans cette église. Le dimanche matin, c'est la réputation de l'église. Le dimanche après-midi, c'est la réputation du serviteur de Dieu. Ah, il est formidable, allons-y, il est formidable. Et le dimanche matin, on y va, c'est la tradition, on y va, c'est la réputation de l'église. Mais la réunion de prière révèle la réputation du Seigneur. C'est là que ceux qui manifestent cet esprit de renoncement, de sacrifice, ce sont ceux-là à qui le Seigneur confiera une onction toujours plus grande du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vivre pour nous-mêmes et avoir l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de puissance. Combien même de serviteurs de Dieu, combien de livres sur la puissance de Dieu, mais très peu de livres sur le renoncement, la croix. Laissez-moi vous dire une chose, il n'y a pas de résurrection sans croix. Il n'y a pas de résurrection sans croix. Ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu, tu dois passer par la croix. Où tu renonces à toi-même, à tes désirs, à tes pensées, à tes intérêts, pour ne rechercher que la gloire de Dieu. Alléluia! C'est cela la tentation. Tu as la puissance maintenant, ça va. Tu n'as pas besoin de renoncer, de faire des sacrifices. Tout va très bien maintenant. Vis maintenant. Voilà, on ne pense qu'aux bénédictions. Tu seras béni par-ci, par-là. C'est le chrétien qui ne pense qu'aux bénédictions. Mais quand il s'agit d'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a plus rien du tout. Il y a combien de chrétiens dans des églises qui sont bénis, qui ont reçu le Saint-Esprit, soi-disant, mais qui n'obéissent pas du tout. Ils sont bien d'accord sur la puissance, mais ils ne sont pas d'accord sur la croix, l'obéissance. Changer leur vie, ça on n'en veut pas du tout. Alors une onction qui ne nous fait pas obéir à la parole n'est pas la véritable onction. L'onction du Saint-Esprit, il nous faut obéir à cette parole et renoncer à nous-mêmes. Amen. Je te donnerai tout cela, c'est magnifique. Mais ne va pas à la croix, ne va pas à la croix. Pas de souffrance, pas d'épreuve. Non, non, ne va pas. Arrière de moi. Si tu veux la puissance, cette puissance automatiquement engendra des persécutions. Tu devras porter ta croix. Et plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu auras des persécutions. Le Saint-Esprit apporte de grandes joies, de nouvelles joies, une nouvelle paix, une nouvelle liberté. C'est vrai, mais aussi de nouvelles persécutions. De nouvelles contradictions. Mais ça, on n'en veut pas. Combien n'en veut pas? Oh là, alléluia. Il y a les chrétiens, comme je le dis souvent, alléluia. Il ne faut pas seulement être les chrétiens. Moi, je suis un chrétien, alléluia. Mais il ne faut pas seulement être un chrétien, alléluia. Il faut être aussi un chrétien, amen. Amen. Et le mot amen, vous savez ce qu'il veut dire? Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Ta volonté soit faite. Même quand ça ne me plaît pas, je veux renoncer à moi-même. Je renonce à moi-même, je veux être un chrétien, amen. Si cette onction, si tu me diriges, Seigneur, dans un chemin difficile, ténébreux, je veux quand même te suivre et ne pas suivre le chemin de la foule. Combien de gens disent, ah oui, sont attirés par la foule, n'avez-vous pas remarqué cela? Il y en a qui ne vont pas à des conventions parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et oui, et ils se disent soi-disant remplis du Saint-Esprit. Oh, il n'y a pas de monde ici, on n'y va pas. Et on va où il y a du monde. Mais uniquement le monde, la foule pour la foule. Et on ne veut qu'entendre des choses agréables. Soyez bénis, tout ça. Tout ira bien, tout va bien, tout. Voilà, on plane totalement. On prêche un Christ sans croix. On prêche un Christ sans croix. C'est pourquoi c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Le Christ ressuscité, glorifié, a été le Christ crucifié. Et c'est parce qu'il est passé par la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est abaissé, humilié, jusqu'à la mort même de la croix. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchira, dans les yeux, sur la terre et sous la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur! Parce qu'il s'est abaissé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. C'est pourquoi, soulignez bien cela, c'est pourquoi celui qui s'abaisse sera élevé. C'est à celui-là que Dieu donnera l'onction, un ministère, des dons, toujours renouvelés. Parce que cette personne ne recherche rien pour elle-même. Elle ne suit pas le Seigneur seulement quand tout va bien. Seulement quand les hommes lui disent du bien. Mais même quand les gens le critiquent, l'humilient, le calomnient. Mais certains, quand il y a ça, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Ils abandonnent tout. Mon ami, si tu veux garder l'onction, on se moquera de toi. On se moquera de toi. On dira des mauvaises choses sur toi. Mais ne te décourage pas. Sois averti. Le diable, il vient avec cette tentation. Il vient. Il te dira cela. Il te tentera. Il te dira, tu peux être béni, tu n'as pas besoin de passer par toutes ces difficultés. Dieu ne veut pas que tu passes par des difficultés. Et il veut nous tenter pour que nous recherchions uniquement des bénédictions sans vouloir obéir. Et renoncer à nous-mêmes et accepter de porter notre croix. Nous ne pouvons pas séparer l'onction du Saint-Esprit de la croix de notre Seigneur Jésus. Amen. Et cette croix, c'est elle qui nous conduit à une véritable vie de résurrection. Amen. Alors voici la deuxième tentation. Dieu, le diable, veut nous offrir une puissance sans la croix. C'est à toi de faire attention. Quand il y a des décisions à prendre, quand il y a quelque chose à faire, est-ce que tu prends toujours le chemin le plus facile? Ça, c'est une grande tentation. Choisir toujours le chemin le plus facile où l'on évite la croix, le rejet, la persécution. Attention, cette chose peut te tromper. Si tu ne vas que là où tu veux être béni, sans jamais vouloir renoncer à toi-même, obéir à la parole, changer, la séduction est sur ton chemin. Je te donnerai tous ces royaumes. Je n'en veux pas. Je ne veux rien pour moi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne veux rien sur cette terre. Ma récompense est là-haut dans le ciel. Alléluia. N'attends rien de ce monde. N'attends rien de qui que ce soit. Ta récompense sera là-haut. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il te récompensera là-haut. Mais n'attends rien ici-bas. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est pourquoi veillons à ne jamais séparer la puissance de Dieu de la croix. Jamais. À partir du moment où nous faisons cela, c'est la séduction. Les deux vont ensemble. Amen. Pourquoi cela? Afin que la croix nous mette toujours nous de côté et que Dieu seul soit glorifié. Toujours, toujours, toujours. Amen. Une troisième tentation maintenant. La troisième tentation. Vous allez voir, celle-là aussi, c'est une tentation terrible, celle-là. Ah, verset 4, verset 7. Il est dit, donc, maintenant, si tu te prosternes devant moi, le diable, au verset 9, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Voilà, maintenant. « Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voilà maintenant la troisième tentation. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'en haut, d'ici en bas, car il donnera des ordres à ses anges pour te protéger. » Quelle est la tentation ici? C'est la tentation de devenir un fanatique. La tentation de devenir un fanatique. Et le problème qu'il y a avec beaucoup de gens, justement, qui se disent remplis du Saint-Esprit, c'est le fanatisme. Ils font des choses absolument qui n'ont pas de sens. C'est la grande tentation du diable, jette-toi d'ici en bas. Allez, tu as la puissance maintenant. On joue avec cette puissance maintenant. On s'est approprié cette puissance parce qu'il n'y a pas la croix. Vous voyez bien, il n'y a pas la croix. Et on croit que la puissance, c'est la nôtre. Et on pense qu'avec notre puissance, on peut faire ce qu'on veut. Quelle tentation et quel danger. Et c'est le fanatisme. C'est le fanatisme qui vient. Jette-toi d'ici en bas. Et on tente Dieu. Et c'est là que beaucoup font des expériences catastrophiques. Le fanatisme. C'est quelque chose de terrible. Et le diable veut faire de toi un fanatique. Il veut te pousser. Vous savez, quand le diable ne peut pas nous retenir, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse. Quand il ne peut pas nous retenir, nous arrêter, il fait le contraire. Il nous pousse. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y maintenant, tu as l'esprit. Vas-y maintenant, tu as la puissance. Vas-y, tu as la puissance. Tu es puissant. Il y a même des enseignements maintenant. Même. Des enseignements dans les milieux charismatiques où certains serviteurs de Dieu commencent à dire que nous sommes pas seulement enfants de Dieu, mais nous sommes Dieu. Mais oui, ça va venir dans la littérature. C'est en Amérique depuis des années déjà cela, mais ça va venir, vous allez voir. Ces livres commencent à arriver. Non seulement vous êtes enfants de Dieu, mais vous êtes Dieu. Voilà le fanatisme. Jette-toi d'ici en bas. Jette-toi d'ici en bas. Tu es Dieu. Pas seulement enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. C'est vrai qu'on a la nature de Dieu, mais attention, on est créature de Dieu. On sera toujours et pour toujours des pécheurs rachetés. Lui sera pour toujours le créateur et nous la créature, rebelles mais rachetés par le sang de Jésus. Sinon, c'est du fanatisme. C'est tordre les Écritures. Et le diable voudrait justement nous faire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et comment savoir qu'on est un fanatique? Eh bien, il faut tout vérifier par la parole de Dieu. Il y a un test tout simple que je donne très souvent quand certains me posent des questions. Comment savoir si une chose est vraie ou faux? Il y en a qui viennent avec de nouvelles doctrines, de nouvelles expériences aussi. Ah oui, mais on me dit, mais moi je l'ai vécu, ça. Ça ne veut rien dire. Une expérience qui n'est pas biblique est à rejeter. Toutes les expériences spirituelles ne viennent pas de Dieu. Tout le surnaturel ne vient pas de Dieu. L'ennemi est là derrière aussi. Comment savoir si je suis un fanatique? Comment reconnaître un fanatique qui vient vous dire « Le Seigneur m'a dit que... » Vous les voyez, ça bouillonne un peu trop. Un jour, un chrétien a dit, pour être un bon chrétien, il faut avoir le cœur chaud, le cœur bouillant et la tête froide. Mais le fanatique, il a le cœur chaud et la tête bouillante aussi. C'est là, il y a la tête qui boue aussi. C'est ça le fanatique. Mais moi, vous les voyez, ça parle beaucoup, ça fait beaucoup de... Oui, mais moi, je sais. Vous voyez, quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Le cœur est chaud, c'est vrai, mais la tête aussi, et ça, ça ne va plus. Ça, c'est la maladie. Un vrai chrétien sous l'onction doit toujours avoir la tête froide et le cœur bouillant. Amen. Ça, c'est la véritable onction. Mais comment savoir alors que quelqu'un est fanatique? Eh bien, il faut toujours poser la question. Quand on vient, vous, avec une expérience, ah, mais moi, j'ai fait telle expérience, c'est formidable, ça m'a fait du bien et tout. Mais enfin, en général, 15 jours ou un mois après, ou un an après, la personne a de nouveau les mêmes problèmes ou d'autres problèmes. Ça, il faut suivre cette personne-là. Mais sur le moment, c'est toujours formidable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut contrôler ça? Parce que quand quelqu'un dit, mais moi, je l'ai vécu, après, c'est tout. Voyez-vous? On met l'expérience avant la parole de Dieu. Voilà une autre tentation. Voilà une autre ruse du diable. Certains qui mettent l'expérience, mais moi, je l'ai vécu. Même si ce n'est pas biblique, tant pis. Je l'ai vécu. C'est ça, la séduction. Dieu ne veut pas que tu expérimentes des choses qui ne sont pas bibliques. Amen. Alors, comment savoir? Le test est là. Est-ce que les apôtres ou le Seigneur ont enseigné ou pratiqué ce que tu me dis là? Cette expérience en question. Est-ce que le Seigneur ou les apôtres l'ont enseigné ou pratiqué? Montre-moi le passage. En général, ils disent, oh, Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans l'Ancien Testament. Beaucoup vont dans l'Ancien Testament. Et beaucoup ont fait des doctrines avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. On ne peut pas fonder de doctrine avec l'Ancien Testament, mes amis. Nous sommes maintenant sous la Nouvelle Alliance. Amen. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. C'est la parole de Dieu, bien sûr, l'Ancien Testament. Nous pouvons y retirer des leçons spirituelles pour notre vie. Mais la doctrine ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Les doctrines claires et nettes sont dans le Nouveau Testament. Et l'Église est fondée sur Jésus-Christ et sur les apôtres et les prophètes. Et sur rien d'autre. Donc si cet enseignement n'a pas été enseigné ou pratiqué par les apôtres, il faut la rejeter. Mais aujourd'hui, beaucoup commencent à être séduits. Ah oui, mais moi je l'ai vécu, ça m'a fait du bien et tout. Ah oui, mais ça ne veut absolument pas dire que ça vient de Dieu. Bon, une fois, j'ai vu une cassette d'un homme qui s'était converti à un gourou. Et dans son témoignage, vous savez ce qu'il disait? Quand j'ai vu ce gourou, j'ai fait l'expérience de l'amour parfait. Et pourtant, c'est le diable. Certains sont surpris. Ah bon, le diable, moi, j'ai cru que le diable, il était que pour tourmenter, que pour faire du mal. Détrompe-toi. Le diable et ses serviteurs se déguisent en ange de lumière. Ange de lumière. Détrompe-toi. Ce n'est pas parce que ça t'a fait du bien que c'est forcément de Dieu. La question que tu dois toujours poser, est-ce biblique? Est-ce que les apôtres, pas dans l'Ancien Testament, on ne va pas me chercher un texte dans l'Ancien Testament ou autre, on peut faire dire à la Bible ce qu'on veut avec ça, n'est-ce pas vrai? Vous faites dire, mais dans le Nouveau Testament, où c'est écrit noir sur blanc ce que tu pratiques, est-ce que tu peux le prouver par la parole et par les enseignements du Seigneur et des apôtres? Est-ce que tu peux? Et là, vous verrez que les gens sont beaucoup en difficulté parce qu'ils mettent l'expérience avant la parole de Dieu. Et c'est là la plus grande séduction. Et là, vous avez remarqué le diable, ce qu'il fait. Quand il est dit, et il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Mais j'ai lu ce matin, dans le psaume, c'est un passage du psaume 91, mais le diable n'a pas tout dit là, il a dit seulement une partie du verset. Il est dit, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Et ensuite, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Voyez-vous, le diable a enlevé un passage pour faire croire à Jésus que, quoi qu'il fasse finalement, eh bien Dieu le gardera. Voyez-vous? Parce qu'en lisant ce passage-là, c'est vrai, on peut dire, bon, ben là, si je me jette, ah ben voilà, Dieu me gardera et il me portera, je peux faire n'importe quoi. Et Dieu me gardera et me protégera. Il te gardera dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Autrement dit, il fera en sorte que tu marches près de lui dans toutes tes voies, que tu fasses sa volonté et non la tienne. C'est quand nous faisons sa volonté qu'il est là, qui nous protège et qui nous bénit. Mais quand nous faisons notre volonté, alors nous nous ouvrons à la déception, à la séduction et à tous les pièges du malin. Voyez-vous, il a enlevé un texte, une partie du texte. Et là, c'est ce qui se passe aussi. Le fanatisme, c'est ça. On prend un texte et on le tord, ou alors on le prend hors du contexte. Comme je le dis souvent, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Combien de chrétiens, soi-disant, remplis du Saint-Esprit, ils vous prennent des passages, ils prennent ce qui leur plaît, comme le diable. Ils prennent une première partie et le reste, ils n'en veulent pas, parce que ça les dérange. Vous voyez ? Alors si on lit la Bible comme ça, un texte hors de son contexte, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ah oui, mais la Bible dit ça. Par exemple, vous avez entendu, je l'ai entendu combien de fois ? Combien de fois les gens disent, mais il ne faut pas juger les gens. Jésus a dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Vous ne l'avez pas entendu cela ? Combien de fois ? Alors, avec une telle parole, on veut vous fermer la bouche. Mais qu'est-ce que vous dites là ? Vous êtes en train de juger tout le monde, vous manquez d'amour. Et on dit, tais-toi, juge pas. Mais est-ce que c'est cela que Jésus a voulu dire ? Il faut toujours voir le contexte. Si vous prenez le petit passage comme ça, sans prendre le contexte, de qui parle-t-il Jésus ici ? Il parle des hypocrites. Un peu plus loin, hypocrite. Si tu veux d'abord enlever la poutre, la paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Jésus parle de ces pharisiens hypocrites qui faisaient la leçon aux autres, alors qu'eux-mêmes, ils faisaient la leçon aux autres et ils pratiquaient, ils étaient pires que les autres. C'est donc le cas de quelqu'un qui fait la leçon aux autres, mais lui, il fait encore pire que cette personne. Autrement dit, c'est le voleur qui dit aux autres de ne pas voler. Voyez-vous ? Il ne faut pas voler. Et lui, il fait pire. C'est pas bien de voler un œuf. Mais lui, il vole un bof. Il vous fait la leçon. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez. Et lui, il fait pire. C'est pas bien de voler un œuf. Mais lui, il vole un bof. Il vous fait la leçon. C'est pourquoi Jésus a dit, ne jugez pas. À vous, hypocrite, ne critique pas comme cela. Va d'abord dans ton cœur. Enlève ce qui ne va pas, et après tu pourras aider les autres. Enlève ton masque d'hypocrisie. Voilà ce que Jésus voulait dire. Mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas juger, discerner. Parce que juste un peu plus loin, dans Matthieu, il est dit, prenez garde aux faux prophètes. Oui, prenez garde aux faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais l'intérieur est comme un loup ravisseur. Alors, il faut bien juger, il faut bien discerner. Voilà. Mais là, le diable, il prend toujours des textes hors de leur contexte. D'où l'importance, mes amis, de bien rester attachés à la parole, de ne pas prendre le passage qui nous convient et le passage qui nous dérange, le mettre de côté. C'est du fanatisme. Et après, le diable, s'il ne peut pas nous retenir, il nous pousse et nous faisons des choses affreuses. Il y en a combien, même maintenant, dans l'Église en général, mouvement charismatique en général, il y a des choses catastrophiques qui se passent. C'est aussi un signe des temps. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. La foi. La foi, il n'est pas question de païens, là, il est question de chrétiens qui abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Nous sommes dans cette période-là, mes amis. Jette-toi en bas, allez, montre un peu qui tu es, prends un passage. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Ah, attention, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui l'a dit ? Est-ce que tu ne coupes pas ce verset en deux ? Est-ce que tu ne prends pas ce qui te plaît ? Est-ce qui te déplaît, tu le mets de côté ? Si tu raisonnes comme cela, c'est du fanatisme. Et tu tomberas si tu te jettes et tu te casseras la figure. Et après, tu pleureras en disant, « Ah, Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Que ça fait, Seigneur, pourquoi ? Si ça continue, j'abandonne tout. » Seigneur dit, « C'est très bien. Ça, c'est une bonne leçon. Je veux t'apprendre quelque chose. Parce que tant que tu planais un petit peu, je ne pouvais rien te dire. Maintenant, quand tu as le nez écrasé par terre, maintenant je peux t'enseigner. Maintenant, tu vas réaliser un peu ton erreur et changer d'attitude. Tu n'es rien du tout. Si tu as la puissance, ce n'est pas la tienne, c'est la mienne. Et Jésus seul doit être glorifié. Nous ne devons pas jouer avec la puissance de Dieu, mes amis, comme certains jouent maintenant avec la puissance de Dieu. Quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est eux qui sont puissants. C'est eux, c'est leur puissance. Il y a un esprit de séduction qui est là. S'il y a une puissance qui agit au milieu de nous, c'est celle du Seigneur. Amen. Nous ne sommes rien. Et Paul lui-même le disait, je termine, que c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà comment garder l'onction, réaliser continuellement notre faiblesse, quand nous ne sommes rien, rien sans lui. Et c'est quand nous sommes faibles que lui est fort. Et c'est alors que Dieu seul est glorifié. Et c'est alors que l'onction demeurera sur ta vie et que Dieu pourra continuer de t'utiliser et te donner encore une plus riche onction. Donne la gloire à Dieu. Alléluia. C'est quand je suis faible que je suis fort. Que ce soit là notre prière, afin que toujours toute la gloire